Nous étions hier le 6 février et, comme chaque année à cette date, certains ont souhaité mettre en avant la journée de lutte contre le régime de mort aux frontières. C'est une journée pour exiger vérité, justice et réparation pour les victimes de la migration et leurs familles et pour les victimes du racisme des États. Il en est malheureusement beaucoup question ces derniers temps aux États-Unis notamment, de ce racisme d'État, avec ce qui s'est passé en particulier bien sûr à Minneapolis, mais ailleurs aussi. C'est le cas notamment dans les Alpes, non loin de Briançon, parce que là-bas, une disparition non élucidée a marqué et marque toujours les habitants des Hautes-Alpes. Blessing Matthew, une jeune femme de 22 ans, est morte en mai 2018 dans un petit village à la frontière entre la France et l'Italie. Blessing Matthew avait fui le Nigeria. Des gendarmes vont la prendre en chasse. Elle tombe alors dans la rivière et disparaît. Son corps sera retrouvé 2 jours plus tard dans un barrage. Aujourd'hui, le dossier judiciaire est clos, mais une contre-enquête menée par des chercheurs et par une association d'aide aux migrants a mis en avant des incohérences dans les propos des gendarmes. Alors, les citoyens ont décidé d'enquêter eux-mêmes, comme vous allez le découvrir dans ce reportage réalisé par Clémentine Métainier et Frédéric Chauffat.
Et bonjour, bonjour Michel. Comment ça va?
Ben ça va, vous êtes à l'heure, c'est bien.
Je suis venu, j'en profite quand je viens là. Quand même avec un peu de matériel toujours. Voilà. Donc j'ai mon seau, mon sécateur, mes gants. Voilà, pour faire un peu d'entretien. Voilà, qu'elle reste belle.
Notre reportage commence à Presles, plus exactement dans le cimetière de ce petit village, situé à 7 km de Briançon, où est enterré Blessing Matthew. Michel Rousseau vient régulièrement sur sa tombe. Âgé de 72 ans, il vit dans la région depuis plus de 40 ans. Il est l'un des fondateurs de l'association Tous Migrants.
Là, on vient de traverser la partie historique. Et voilà la partie plus moderne, récente.
C'est plutôt vide, hein ?
Il n'y a pas beaucoup de tombes. Et en fait, Blessing est enterré dans un coin, à l'extrémité est du cimetière.
Donc là, vous me montrez, tout au bout, à droite, on va y aller.
Au fond du cimetière. Lorsqu'on a découvert cet emplacement, au moment même de la cérémonie d'inhumation, dans ce coin, entre deux murs, ça a été un choc. Alors que, au moment de la cérémonie, l'église était pleine à craquer. C'était toute l'humanité de Blessing qui avait été restituée. Quand on arrive ici, il y avait encore beaucoup de monde. Mais c'est un concours de circonstances qui nous rappelle que notre société a vite fait de marginaliser.
On peut s'avancer encore plus proche ?
Donc on a une tombe qui est très sobre, avec une plaque en bois qu'un des membres de l'association a gravé avec le prénom de Blessing, et puis des fleurs de montagne et des rosiers qu'on a plantés un peu au fil du temps pour honorer sa mémoire, pour faire de cet endroit justement pas un lieu vide, pas un lieu anonyme, quelque chose de vivant, quelque chose de présent qui puisse encourager les gens à se poser la question, mais pourquoi Blessing est là et pourquoi cette tombe, qu'est-ce qui s'est passé?
Quand on habite ici, comme vous, à un moment donné, on est confronté à la question de l'exil, à la question de l'accueil, à la question de la solidarité.
Ça fait partie de l'histoire de ce territoire, avec des cols qui étaient franchis par des populations depuis la nuit des temps, en quête d'un avenir, en quête d'une possibilité de vivre par rapport à des réalités que les gens fuyaient. Et depuis 10 ans, depuis le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures en 2015, on a vu arriver quotidiennement des gens par la montagne. Et donc on s'est très très vite organisé pour permettre aux gens de survivre à cette traversée périlleuse, que nos Alpes ne deviennent pas un cimetière comme la Méditerranée. Ce n'était pas seulement l'obstacle de la montagne, c'était surtout l'obstacle de la police et des contrôles et des refoulements systématiques. Les gens sont obligés d'éviter les forces de l'ordre parce que sinon elles vont être foulées. Donc elle passe par des cheminements escarpés avec le risque de se perdre, le risque de mourir de froid, le risque de chuter et aussi surtout en étant coursée par les forces de l'ordre, là aussi le risque d'accident. Et c'est ce qui s'est passé. C'est malheureusement ce qui s'est passé et la première victime de ces traques, de ces chasses à l'homme, c'est Blessing. Et voilà, et c'est pour ça qu'on continue avec l'énergie, non pas du désespoir, de l'espoir plutôt, de lutter pour que les droits des personnes exilées soient respectés et que les politiques migratoires changent pour qu'elles soient dignes de notre pays, quoi. Comme ça, ça aussi, ce liseron là qui est un peu... Deux jours après le drame, le 9 mai 2018, on sait qu'il y a de fortes chances qu'elle ait disparu dès la Vachette. Et c'est impossible que son corps se retrouve comme ça, dans l'état dans lequel il a été retrouvé ici.
Parce que la Vachette, c'est combien de kilomètres plus haut ?
11 kilomètres. Très vite, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Son corps est retrouvé complètement dénudé, à l'exception d'une culotte et d'un pendentif. La rivière, elle arrache tout, hein. Et en plus, le corps se bloque. On n'a jamais vu ici un corps faire 11 km, parce que ce n'est pas la première noyade. D'autant plus que son corps est peu abîmé. Elle aurait été broyée, elle aurait été démembrée. C'est impossible qu'un corps puisse faire tout ce chemin. Mais logiquement, c'est la justice qui devrait faire cette reconstitution.
Une reconstitution a été faite par les militants et militantes de Tous Migrants, ainsi que par des chercheuses et chercheurs spécialistes des migrations. Dans sa contre-enquête, publiée en 2022, l'ONG Border Forensic relève les récits contradictoires des agents de gendarmerie présents cette nuit-là, tout comme des rapports d'enquête incohérents. Mais le dossier est pourtant officiellement clos le 18 janvier 2024, avec la décision de la Cour européenne des droits de l'homme de ne pas réouvrir l'enquête. Depuis, des citoyens et citoyennes continuent de chercher des preuves pour que la vérité soit faite sur le décès de Blessing Mathieu.
En fait, on a mobilisé toute notre énergie pour découvrir la vérité et obtenir la justice. Nous, on veut rendre public tout ce qu'on sait. Donc on veut aller au bout de ce qu'on peut produire comme données vérifiées béton ou comme questions. Comment une personne pleine de vie peut se retrouver coincée dans un barrage ? C'est insupportable. Ma démarche militante, c'est de l'honorer comme une personne comme une autre. Hein. Je ne sais pas, c'est comme si c'était un membre de ma famille. On est juste témoin direct des conséquences d'une politique dramatique, criminelle. Notre seul courage, on va dire, c'est de pas fermer les yeux. Voilà. Mais c'est sous nos yeux. Ça fait partie de l'humanité, cette notion d'asile et d'exil. C'est au cœur de n'importe quelle trajectoire humaine. Les gens qui fuient, ça nous rappelle notre humanité, dans sa fragilité, dans sa précarité. Voilà.
Donc là, je passe sous le tunnel.
Ouais.
Ouais. Donc là, si je vais tout droit, on part à Turin, c'est
ouais.
Ça? Ok. Ah voilà, on voit la frontière.
Là à droite, on a deux mégabassines aussi.
Oui.
Arroser le golf et faire des canons à neige.
Donc là, je prends à gauche, Brune ?
Et là, non, ouais. Mince.
À gauche, non, je continue.
Ouais. On va se garer à la station essence. Et en vérité, la frontière, elle est un peu plus bas.
Voilà. On sort de la voiture ? Ça vous va ?
Ici, on se fait souvent contrôler son identité.
Mais parce que ici, les policiers font ça très fréquemment. Hier, je me suis fait me contrôler mon identité ici, par exemple.
On se retrouve au col de Montgenèvre, à 1860 mètres d'altitude, pour comprendre comment se matérialise la frontière que traversent tant de personnes qui tentent de rejoindre la France par l'Italie, à l'image de Blessing Mathieu. Brune Béal, juriste à Tous Migrants, s'y rend régulièrement, afin de documenter le traitement des personnes migrantes.
Alors je m'appelle Brune Béal, je travaille pour l'association Tous Migrants, donc on documente les pratiques policières, les atteintes aux droits. Je m'occupe aussi du volet juridique, contentieux et de tout le plaidoyer politique. Donc c'est le seul col qui n'est jamais fermé. C'est un des cols en France le plus traversé aussi. Et par rapport aux autres cols avoisinants, qui eux sont fermés en hiver parce que les conditions sont difficiles, lui, il faut stratégiquement qu'ils soient impérativement laissés ouverts en fait. Et c'est tout le paradoxe avec le fait qu'on bloque aux personnes exilées, mais que pour des raisons commerciales, touristiques, il ne faut absolument pas le fermer l'hiver.
On emprunte un petit chemin qui va nous faire surplomber la police aux frontières. Mais du coup, la frontière, elle n'est pas là, au niveau de ce bâtiment-là.
La frontière, elle est un peu plus bas sur la route. Et on surplombe surtout là les constructions modulaires accolées au bâtiment de la police aux frontières. Et c'est dedans que sont enfermées les personnes exilées qui sont interpellées le temps que leur refoulement soit appliqué. Et ça peut durer 2, 3, 4, 5, 10, 12 heures, 24 heures, quoi. Et dans des conditions d'enfermement très souvent indignes.
Donc c'est ce qu'on distingue là.
Ouais, exactement. Et voilà, si on s'approche un petit peu, il y a deux rangées de grillages, il y a des barreaux aux fenêtres, il y a des caméras tournées vers l'extérieur et l'intérieur. Et nous, on n'arrête pas de répéter, de réaffirmer qu'il s'agit d'un lieu de privation de liberté, qui doit donc répondre à certains critères, mais l'administration dit que c'est un lieu de mise à l'abri. Et là, ça saute aux yeux que ce n'est pas un lieu de mise à l'abri. Les personnes ne sont pas du tout libres d'aller et venir.
Donc là, très concrètement, on est juste derrière la police aux frontières. On a cette montagne-là, très imposante autour de nous. Ici, les exilés passent par où ?
On a l'impression qu'il y a trois routes possibles. Il y en a une, la plus accessible, qui est un peu en dessous. Et sinon, il y a deux autres chemins. Un qui part là sur le versant à notre gauche et l'autre qui part sur le versant à notre droite. Et donc ces deux chemins-là finissent par se rejoindre plus bas ensuite. Un peu avant Briançon, et c'est sur cette dernière portion que Blessing est décédé, mais c'est aussi le cas de plusieurs autres personnes qui sont décédées à cet endroit. Donc on pourrait penser que le plus dangereux, c'est quand t'es haut dans la montagne, mais en vérité le danger il est constant jusqu'à la fin, notamment quand il y a des courses-poursuites avec les forces de l'ordre, quoi. Là, faut bien s'imaginer que les personnes exilées qui tentent de passer par ici, parmi les mille et une étapes qu'elles ont dû franchir avant d'arriver ici, notamment d'autres frontières. Ici, elles doivent encore s'attaquer à une étape particulièrement difficile puisque c'est des pistes de ski, en fait, qu'elles doivent traverser. Et on ne se rend pas compte quand on est dessus ou quand on les regarde en face, mais c'est très, très raide. On est à 1800 mètres d'altitude. On peut tomber à des ressentis jusqu'à moins 20. Donc, il y a évidemment des risques d'hypothermie, de gelure, de chute. Le terrain, quand il est enneigé ou quand il est glacé ou quand il est mouillé, particulièrement dangereux. C'est des chemins très escarpés. Et donc, en fait, ce qu'on dénonce, c'est aussi ça. C'est l'absurdité de voir des policiers, des fois, recourir à la course-poursuite alors que c'est interdit par leur corps de déontologie. En fait, c'est les pousser à la mort. C'est effrayant pour des personnes qui ne connaissent pas cet endroit. Et c'est leur première vision de la France, c'est l'hostilité en fait.
On continue d'avancer ?
Ouais, très bien.
Ah, regardez, on vient nous chercher, non ?
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Police. On vient juste faire un petit contrôle quand vous filmez les bâtiments.
On n'a aucune caméra.
Vous n'avez aucune caméra ?
C'est que
d'accord,
du son.
D'accord. Du coup, vous êtes journaliste ? Vous êtes...
On est documentariste indépendant.
D'accord. Vous avez une carte de presse, s'il vous plaît ?
Moi, j'ai ma carte de presse.
Je viens, s'il vous plaît.
Le documentaire, c'est quel genre de... Quel objectif ?
Ils m'ont sollicité pour expliquer le contexte, parce qu'ils ne savaient pas trop où était la frontière, etc. Donc, ils m'ont sollicité dans ce cadre-là.
Béal Bruno, okay. Vous êtes juriste à tous migrants, si je n'ai pas de bêtises. Ok, très bien. Ok, ça marche.
Au revoir, monsieur.
Mais bon, ça montre quand même le climat un peu pesant, quoi, de se faire contrôler son identité tout le temps. On a plein d'éléments qui montrent aussi qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont fichées par les autorités. Enfin, c'est quand même... Non, t'es pas passé par là. Pour moi, Blessing, ça incarne ça. Ça incarne en fait une histoire qui nous a tous et toutes dépassés, qui me dépasse moi encore aujourd'hui, parce qu'elle a pris une dimension très complexe dans la réalité, mais aussi dans les étapes judiciaires qu'on a traversées, à cause des pratiques, à cause des ordres donnés aux forces de l'ordre, à cause des atteintes aux droits. Et elle incarne aussi notre volonté de ne pas se taire, et que ça peut faire peut-être, bien même maintenant, ça fait des années qu'elle est décédée, mais elle continue d'incarner cette lutte-là. On a fait un travail extraordinaire, et de ça, je pense qu'on peut être fiers. Et donc, en fait, là, nous, notre objectif, ça va être d'aller encore plus loin dans les éléments qui nous semblaient déjà à l'époque solides, pour en arriver à des questions face auquel on ne pourra pas se dérober. Comment vous expliquez qu'un corps, après plusieurs kilomètres dans un torrent, soit arrivé dans un état quasi intact? Comment vous expliquez que ce soit des gendarmes qui fassent une enquête sur d'autres gendarmes et qui omettent de poser la moitié des questions importantes, d'interroger certains agents présents sur place ce soir-là? Nous, on est un peu obligés de naviguer aussi entre notre volonté de réhumaniser toutes les personnes qui sont victimes de ce système frontière. De les réhumaniser, c'est leur redonner un nom, une histoire, des contacts avec la famille, enfin ce qu'on ferait en fait pour n'importe quel décès d'une personne française. Et en même temps, d'illustrer à quel point c'est un problème systémique, à quel point elle est morte parce qu'on a mis en œuvre des politiques frontalières racistes, discriminatoires, violentes, qui préfèrent faire primer les objectifs sécuritaires sur les vies d'individus comme celle de Blessing, qui était une très très jeune fille. On n'aurait jamais accepté un niveau d'enquête aussi bas pour la mort d'une personne blanche. Jamais. Et donc, en fait, c'est ça aussi qu'on veut montrer. Le caractère intrinsèquement raciste de ce qui se passe. C'est un corps noir qui est mort. Donc, c'est pas pareil que quand c'est un corps blanc, quoi.
Depuis 8 ans, les éléments recueillis par ces citoyens soulèvent des questions. Le 7 mai 2018, la Durance est en crue, emportant tout sur son passage. Comment se fait-il que le corps de Blessing, retrouvé 2 jours après sa chute, 11 km en aval, soit retrouvé presque intact, entièrement dénudé, à l'exception d'un pendentif et d'une culotte? Vu l'état du corps, une dérive de 11 km est quasi impossible, alors que penser? Aurait-elle été sortie de l'eau, déplacée, et par qui? Hervé, compagnon d'infortune qui faisait la route avec elle, ainsi que les gendarmes, sont les dernières personnes à l'avoir vue. Quant à la veste et au foulard, retrouvés en amont du lieu présumé de sa chute, Blessing les aurait-elle enlevés de son propre gré? Sinon, qui l'aurait déshabillé et pourquoi? Pour faire croire qu'elle n'aurait pas traversé le pont et continué son chemin à pied vers Briançon, sans veste? Michel Rousseau revient régulièrement à la Vachette, sur les lieux du drame, afin de, encore et encore, tenter de comprendre.
Est-ce qu'on peut aller à l'endroit où Blessing est tombé, il y a 8 ans, maintenant?
Oui, on va y aller. En fait, vous voyez, là, on arrive au début du jardin.
Donc on a le droit d'y aller?
Oui, bah c'est la 30e fois qu'on se déplace ici.
Hervé, un jeune homme d'origine camerounaise, accompagnait Blessing la nuit du drame. Il est le seul témoin de sa chute dans la Durance et n'a jamais été entendu par la justice. Pourtant, Tous Migrants et l'organisation Border Forensic ont récolté son témoignage en octobre 2021.
Hervé nous dit qu'au moment où Blessing tombe dans la rivière, elle porte une grosse veste et un foulard multicolore à dominante orange. Elle porte sur son dos un sac noir dans lequel il y a toutes ses affaires. Et en fait, ce sac et son manteau vont être trouvés dans des conditions, d'après les données de l'enquête, tout à fait étonnantes, sous la petite passerelle, en amont de la chute de Blessing, la petite passerelle du torrent du Vallon. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la vérité soit faite.
Pour Alain aussi, habitant du village que nous rencontrons par hasard, il est temps que la vérité soit faite.
Bah, Blessing, c'est un symbole, en fait, on va dire. Hein. Dernièrement, j'ai vu encore un gars qui est arrivé, là, un Palestinien. Quoi. J'étais en train de ramasser des gravilles dans la rivière et je voyais qu'il m'observait et tout. Et je lui demandais ce qu'il faisait. Et bon, il ne parlait pas français ni anglais. Ça m'a choqué, quoi. Il avait des chiffons autour des pieds qui entouraient ses pieds. Quoi. Il n'avait plus de chaussures. Quoi. Donc c'est pour vous dire un peu le décalage qu'il y a par rapport à notre société. Quoi. je peux dire qu'on est forcément lié à ces événements, quoi, directement, surtout à la Vachette. Hein, je crois que tous les chemins passent par la Vachette, quoi, que ce soit de Montgenèr ou de Col de l'Échelle. Et malheureusement, Blessing en a fait les frais, quoi.
Et vous, vous aimeriez quand même savoir la vérité, savoir ce qui s'est passé ? Bonjour.
Ouais, bonjour.
On arrive à Briançon, on pensait aller à la Vachette.
Ouais, mais moi j'habite pas à Briançon en fait.
Donc c'est après Briançon ou c'est nous on arrive de Grenoble?
Eh ben oui, c'est après encore. Ouais.
Bon, on est à 20 minutes de la Vachette là, donc on n'est même pas encore à Briançon.
Ouais, ouais. Mais en fait, c'est assez facile à trouver parce qu'il y a un feu rouge, il y a une église. Donc vous vous garez, il y a une grande place devant l'église, vous vous garez là.
Ok.
C'est assez facile à trouver en fait.
Carrément. Et là, ça nous indique 30 D'accord. minutes, donc on est là voilà. dans une trottinette. Et ben, à tout de suite alors.
Ouais, tout à l'heure.
Merci, merci beaucoup.
Agnès Antoine habite les environs de Briançon. Ébranlée par la mort de Blessing Mathieu, elle s'est impliquée corps et âme dans la recherche de la vérité et demande elle aussi toujours justice pour Blessing Mathieu.
Toc, toc, toc. On a quelques minutes de retard. Bonjour Agnès. Ça va et vous? C'est le chantier, c'est des préparatifs?
Ouais. Ben ouais, on fait les sacoches. On fait la traversée du Massif Central.
Super.
En vélo. Enfin, en tandem.
Donc on vous attrape in extremis avant votre départ.
Exactement. Mmh. Exactement. On s'installe ici.
Oui.
Ça vous va, quoi? Petite cafetière, elle est là.
Café dans le frigo.
Vous aimez un café fort, pas fort?
Toi, dis. Ton...
Alors, on y va. Ça fait depuis 1980, donc 45 ans que j'habite dans le coin. Je suis mariée, j'ai 5 enfants. Je suis très, très impliquée dans la défense du droit des étrangers depuis très longtemps. D'abord, j'ai travaillé en tant qu'intervenant social pour l'accès aux droits des étrangers.
Et quel portrait vous pourriez faire de Blessing, cette femme que vous n'avez connue que décédée?
On ne sait pas grand-chose d'elle. On en sait ce que ses sœurs nous ont dit, les photos qu'elles nous ont données. Dans une très belle photo, elle est habillée en mauve. Quelques mots que nous ont dit ses sœurs, qu'elle savait très bien nager, donc que c'est impossible qu'elle se soit noyée. Qu'elle voulait être médecin ou quelque chose comme ça, voilà, en tout cas qu'elle voulait aider les autres. Mais en fait, on ne sait pas grand-chose d'autre d'elle. Et ça, c'est un petit peu une difficulté pour moi, c'est qu'en fait, on a beaucoup médiatisé cette affaire. Son nom est très connu, vous tapez Blessing sur Google, voilà, on tombe sur son histoire. Et paradoxalement, on a très très peu d'éléments sur sa vie, sur... Par exemple, on ne sait pas exactement son âge. On ne sait pas grand-chose, finalement, si ce n'est le fait qu'elle est morte de manière très violente ici. Et voilà, je trouve que c'est très dur. Et c'est très violent. Donc, non seulement une noyade d'endurance, mais en plus une tombe au cimetière, là, complètement à l'écart des autres. Voilà. C'est ce qui va rester dans la postérité. C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible, ça.
Et vous, depuis ce moment-là, vous n'avez fait que vous engager, particulièrement avec Michel? Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, quand même, pour vous.
Bien sûr. Ça ne nous touche pas seulement, c'est plus que ça, quoi. Ça nous modifie. Et ça, moi, je ne pensais pas. Je pensais, oui, tu as un combat, c'est dur, il faut que tu y ailles et tout. Bon, ok, tu ne dors pas bien, tu t'écris sans arrêt, enfin voilà, tu es sans arrêt en action. Mais là, ça te modifie dans ce que tu as de plus profond, quoi. Et c'est ça qui est compliqué. Et que chaque printemps, quand il y a des crues, Franchement, hein, moi, depuis la mort de Blessing, chaque printemps, quand il y a des crues, que la Durance, elle est là, qu'elle est énorme et tout, je suis serrée, quoi. J'ai l'angoisse, j'ai le... C'est... Du coup, ah, c'est horrible, enfin... Tu peux plus regarder la Durance comme avant, quoi. Tu vis plus les choses de la même... Alors que ben, Blessing, c'était pas de ma famille, c'était quelqu'un que je connaissais pas avant ce drame, mais ouais, c'est... Je cherche des tasses. Alors, c'est des tasses...
Astérix.
Mes petits-enfants.
Et vous, aujourd'hui, quel est votre espoir ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a espoir, concrètement ? Alors après, preuve à l'appui ou pas, mais c'est de réouvrir une enquête judiciaire, de repasser par la justice aujourd'hui.
En fait, qu'aujourd'hui on juge ou pas les gendarmes qui étaient là ce soir-là, ça n'amènera pas grand-chose à Blessing, ni à nous. Ce qu'on veut, nous, c'est que... On reconnaisse, oui, que cette nuit-là, il s'est passé quelque chose, qu'Hervé dit la vérité, et que, oui, il y a eu un dérapage cette nuit-là, et que, oui, Blessing est morte à cause de ça.
Et vous pensez que vous avez fait un travail, vous, qui aujourd'hui permet d'établir la vérité ?
Oui, absolument. Absolument. Et, enfin, moi, je demande que ça. Qu'on nous dise, ouais, c'est vrai ce que vous racontez. Mais il faut du temps. On a des affaires hein, qui restent non élucidées pendant 30 ans et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se dit « bon bah, avant de mourir, je vais dire ce qui s'est passé ».
S'il y avait encore une action à mener, quelque chose qui pour vous serait fondamental de mener pour essayer encore de chercher la vérité, ce serait quoi ?
Il y a des pistes, peut-être pour poursuivre encore l'action judiciaire d'une autre manière, qui peuvent être de porter plainte peut-être. Mais ça, voilà, il faut en avoir le courage et la force, parce que c'est vrai que c'est quand même pas facile d'admettre qu'on peut avoir des drames comme ça qui se passent sans que la vérité soit rendue aux familles, sans que le minimum de dignité même soit rendu aux familles et à la personne décédée aussi. Voilà, j'ai un ami philosophe, dans un article qu'il a fait, donc après que... En appel, ils aient refusé de rouvrir l'enquête et qui dit, ben voilà, on enlève la vie à Blessing une deuxième fois. C'est ça, en fait. Le refus de rouvrir l'enquête, c'est en fait, on la noie une deuxième fois. Il n'y a rien pour sauver cette humanité. La vérité.
Une vérité qui devrait être faite pour toutes les vies perdues à nos frontières. Et afin de pouvoir mettre un nom, rendre hommage, raconter les trajectoires de ces vies qui restent souvent anonymes. Partout en Europe, le 6 février, des collectifs se sont rassemblés pour demander une politique d'accueil des exilés plus juste et moins mortifère. Blessing Mathieu en restera le symbole.
Qui a tué Blessing Mathieu ? C'était un reportage de Clémentine Métainier et Frédéric Chauffard, réalisé avec le soutien du CCFD Terre Solidaire et de ses partenaires engagés auprès des personnes migrantes, avec aussi la bourse de journalisme d'investigation de Balkan Investigating Reporting Network et la fondation Rosa Luxemburg.